Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Nasser Moussaoui.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le dernier jour de notre série consacrée à l'économie de la rareté. Cette semaine, nous nous sommes glissés dans l'univers du luxe et nous avons arpenté les champs pétrolifères afin de questionner les fondements économiques et philosophiques du concept de rareté. À présent, nous allons nous pencher sur la lutte contre l'épuisement des ressources. Dès les années 70, le modèle de l'économie circulaire proposait de répondre à la crise écologique en réintégrant les matières issues des déchets dans le circuit économique. Des propositions qui ont inspiré le projet de loi sur l'économie circulaire présenté lundi au Conseil national de la transition écologique. L'objectif, renforcer la responsabilité des producteurs et mieux informer les consommateurs. Des mesures très attendues mais jugées largement insuffisantes face à l'urgence environnementale. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons interroger le modèle et les limites de l'économie circulaire en compagnie de François-Michel Lambert, député écologiste et président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, en compagnie également de Franck Agéry, professeur de management à Mines Paris Tech et chroniqueur à Alternatives économiques, ainsi que co-responsable de la chaire Mines urbaines. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. François-Michel Lambert et Franck Agéry, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Et pour commencer, revenons, si vous le voulez bien, à l'aube des années 70.
Sans tomber dans un excès d'ailleurs, parce qu'il faut tout de même bien se dire, il faut toujours aller à ce qui est économiquement faisable. Et là, dans ce cas-là, c'est ce qui consomme moins d'énergie à conserver qu'à se procurer des nouvelles. Ce qu'on peut considérer malgré tout, c'est que dans ce qui est jeté actuellement, il y a un pourcentage difficile à définir, mais extrêmement important, de choses qui sont recyclables. On peut dire, sans trop exagérer, qu'avec une politique bien mise au point, en quelques années, nous pourrions récupérer 80% de ce que nous consommons actuellement. Pas au point de vue énergétique, malheureusement, comme vous le savez, ce qui est brûlé en énergie, ça ne se récupère pratiquement pas.
Voilà, on entendait Claude Guillemin, directeur du service géologique national au Bureau de recherche géologique et minière, une archivina de 1974. Que vous inspirent ces propos, François-Michel Lambert, pour commencer?
40 ans plus tard, où en sommes-nous? On est à une loi qui, on en reparlera, qui est encore orientée très déchets, mais n'est toujours avec la même chose que depuis 4 milliards d'années, une planète aux ressources finies. Il n'y aura pas une deuxième planète qui va venir se garer à côté de la nôtre, mais pendant ce temps-là, l'humanité est en croissance démographique et surtout en croissance de consommation de ressources sur un radeau, ce qu'on appelle la planète, la Terre, qui, elle, ne pourra pas donner plus qu'elle se donne.
Et 80%, donc, comme le dit Claude Guillemin, c'était quand même particulièrement optimiste dans les années 70.
C'était une prise de conscience. Aujourd'hui, la prise de conscience, c'est le 10 mai de cette année. Les Européens ont consommé tout ce qui leur était alloué par la planète, virtuellement, évidemment,
pour vivre une année. Dépassement.
Le jour du dépassement, le 10 mai. Donc, les Européens prennent, soit sur les autres continents, à d'autres peuples, soit sur les stocks, et donc les besoins pour finir notre année, et c'est de pire en pire. Donc il est urgent de passer à une économie circulaire, une économie de la ressource.
Franck Agéry, on entend bien dans les propos de Claude Guillemin le principe de l'économie circulaire qui entend réduire les impacts environnementaux de la production et de la consommation tout en créant de la valeur économique.
Alors, tout à fait, effectivement, c'est l'une des idées clés de l'économie circulaire qui explique d'ailleurs le succès du concept. C'est qu'il y a une promesse de double création de valeur environnementale et économique. Et ce qui explique son succès, notamment auprès des milieux d'entreprise, des pouvoirs publics. C'est-à-dire que on ne promet pas simplement des larmes, mais on promet également la possibilité, en tout cas, d'un nouveau modèle économique. Mais le point important que soulignait François-Michel Lambert à l'instant, c'est qu'il y a un écart entre les promesses et ensuite les réalisations. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui encore au stade où on fait beaucoup de promesses, Donc on a construit une utopie, on pourrait dire même l'économie circulaire, c'est une forme d'utopie rationnelle, c'est-à-dire que ça s'appuie sur des modèles, des outils, etc. Mais ensuite, il faudra voir les réalisations et l'écart entre les deux.
Eh bien, on va le voir pendant cette émission, mais d'abord peut-être qu'il faut expliquer, Franck Ageri, que le modèle de l'économie circulaire va émerger en tant que tel, en tant que concept, dans les années 90, mais en réalité, son principe est beaucoup plus ancien.
Alors effectivement, son principe est plus ancien et en particulier au tournant des années 70, et je pense que c'est intéressant que vous ayez diffusé un passage qui remonte à cette époque-là, il y a une prise de conscience. D'abord, il y a la notion de la catégorie d'environnement qui est construite dans les années 60, parce qu'avant on parlait de pollution, etc., mais on ne parlait pas d'environnement. Et l'environnement, les écosystèmes, etc., renvoient une approche systémique des rapports entre les milieux humains et les systèmes naturels. Donc là, il y a une rupture qui s'opère dans les années 60. Et dans les années 70, il y a toute une institutionnalisation de l'environnement qui va apparaître. Et dès cette époque, si on prend le rapport Meadows de 72, ce rapport en fait est fondé sur des simulations, des modèles qui montrent que en gros la croissance économique est incompatible avec la préservation des ressources à long terme. Et donc
c'est la première fois que c'est dit aussi clairement.
Voilà, exactement.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, selon vous, Franck Ageri, d'une certaine façon, l'économie linéaire, telle qu'on l'a connue, en particulier au moment des Trente Glorieuses, ce serait finalement une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. L'économie circulaire, c'était la norme auparavant.
Alors ça, c'est un point important, parce qu'effectivement, il y a une sorte de récit, de storytelling, si vous voulez, de l'économie circulaire. On dit, il faut passer à l'économie circulaire. Avant, il y avait l'économie linéaire. Mais lorsqu'on réfléchit, on se dit, mais est-ce que, au fond, l'économie linéaire était vraiment le modèle premier? Et comment était organisée l'économie au siècle dernier, dans les siècles passés? Lorsqu'on répond à cette question, on se rend compte que, en fait, l'économie linéaire est extrêmement récente. Son développement est apparu au XXe siècle et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, au moment des Trente Glorieuses. Et auparavant, on était dans une forme d'économie circulaire.
Et justement, quelle forme est-ce que cela prenait?
Alors il y a eu beaucoup de travaux d'historiens qui ont très bien documenté ça, notamment Sabine Barle, par exemple, qui montrait que, en gros, on jetait rien. C'est-à-dire que l'idée même de déchets est assez récente, ça vient de Déchoir, et ça remonte au XVe siècle. Et donc, en fait, la notion de déchet était très peu existante. C'est-à-dire qu'on récupérait les matières, il y avait des professions qui existaient, des chiffonniers, par exemple, et on les réutilisait, etc. Alors, ce premier modèle de l'économie circulaire va être mis en cause ou en péril pour une raison qui est très rarement évoquée, c'est les problèmes d'hygiène. C'est qu'on découvre, notamment avec la révolution pasteurienne, à la fin du 19e siècle, les microbes et les épidémies, etc. Et on dit,
il faut débarrasser des déchets.
Exactement. Désormais. Les causes des épidémies, c'était la circulation des matières et qui était problématique, qui était vecteur, en fait, de diffusion des microbes. Et donc, on crée, par exemple, la poubelle. Vous savez que le poubelle vient de préfet Eugène Poubelle et c'est la fin du 19e siècle seulement. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, évidemment, la critique actuelle vient de la critique de la société de consommation, de l'obsolescence programmée, du marketing, c'est-à-dire du fait qu'on va avoir des produits avec une vie de plus en plus courte, on va générer de plus en plus de pollution et de déchets.
C'est le fait qu'on a mis en place une économie fondée sur l'hypothèse d'un monde sans limite qui a permis à cette économie linéaire d'apparaître, François-Michel Lambert.
Il y a un élément qui est clair, c'est que l'arrivée de la révolution industrielle, outre la question de l'hygiène, c'était aussi la facilité de l'extraction des ressources, hein, grâce à l'énergie grandement disponible qui a surmultiplié la puissance humaine. Imaginez, dans les siècles passés, vous arrachiez un bloc de plusieurs tonnes d'une roche, vous n'en faisiez pas des petits cailloux pour mettre sous du bitume. C'était l'un des éléments d'une cathédrale, d'un château, d'un pont. Si ce pont, cette cathédrale, ce château venait à être déconstruit, on reprenait ce bloc de pierre et on le remettait parce qu'il apportait un apport notable en service commun. C'est-à-dire que ça faisait une clé de voûte, ça faisait un pilier d'un deuxième pont, etc.
Mais
etc.
tout va changer avec la révolution
et
industrielle.
Et la révolution industrielle dit, bah, moi, maintenant, c'est super facile d'extraire des blocs, donc vas-y, on le gaspille. On le gaspille dans l'usage, mais on le gaspille aussi dans la réutilisation. Donc ça, c'est un des éléments. Et ce que l'on peut noter, c'est que l'économie linéaire, dans la croissance notamment de la France et des pays occidentaux, c'est qu'il y a une élasticité entre le pourcentage de croissance économique et le pourcentage de consommation de ressources. Et une élasticité qui s'inscrit aux alentours de 2, vous me confirmerez sûrement, c'est-à-dire que si on avait une croissance de 3% économique, c'était 6% de matière supplémentaire que nous devions prélever. Et c'est ça qui n'est plus possible quand vous savez que vous avez une limite de la planète.
Une course en avant qui, effectivement, il faut remettre en cause aujourd'hui. Franck Ageri, vous avez parlé de cette question de l'obsolescence programmée. C'est cela qui va largement contribuer à l'épuisement des ressources naturelles à partir du second XXe siècle, même si en réalité, elle existe déjà au XIXe siècle.
Oui, alors le point de François-Michel Lambert est très juste, et qu'effectivement, ce qui explique l'utilisation intensive des ressources, c'est que leur coût s'est effondré. Le coût de production, mais leur coût de transport également. Hein, voilà, tous les coûts. Donc effectivement, l'énergie et les ressources naturelles sont devenues extrêmement bon marché, et donc on a pu les gaspiller sans aucun problème. Alors effectivement, c'est ajouté à ça une transformation de l'activité économique et de consommation. On a parlé de société de consommation, où effectivement on a essayé d'accélérer le rythme renouvellement des produits et de susciter des besoins artificiels chez les consommateurs. Donc ça, c'est évidemment, on appelle ça obsolescence programmée, mais c'est lié aussi à la naissance de professions, hein, comme le marketing, qui essaie de susciter des besoins qui sont pas forcément vitaux.
Donc c'est lié aux effets de mode, et c'est lié aussi à des obsolescences techniques, le fait que de nouveaux produits arrivent sur le marché, qui sont plus performants.
Exactement.
Technique et de mode. Oui.
C'est ça, c'est la combinaison des deux. Alors on le voit bien par exemple dans le textile, hein, dans la mode justement, où le rythme de renouvellement des produits est absolument effréné. Il y a des statistiques, hein, qui montrent que la plupart des vêtements qu'on utilise, on les utilise parfois quelques jours ou quelques fois, on va dire, parce que le prix même des vêtements s'est effondré. Par contre, les impacts environnementaux des vêtements, eux, sont assez colossaux, notamment si on utilise, par exemple, du coton conventionnel.
Et alors, face à cela, le concept d'économie circulaire va émerger. Comment est-ce qu'on peut le définir, d'abord, François-Michel Lambert ? Et est-ce que l'idée, c'est justement de reprendre ce principe de circularité qui est finalement au cœur du fonctionnement de la nature ?
Alors, tout à fait, c'est peut-être le mot circulaire vient de cette notion que la nature, par essence, c'est un des écosystèmes qui interagissent et qui redistribuent en permanence la matière pour toujours chercher à créer plus de biens communs au système dans lequel il est. C'est quel est le collectif que pourrait être un espace naturel s'organise pour que le kilo de telle matière ou de telle matière serve à créer le plus d'apports pour le collectif.
Souvent, on définit l'économie circulaire par les 3 R, réduire, réutiliser, recycler.
Je pense que c'est une erreur. Et nous, on est sur l'économie circulaire, c'est l'économie justement de la ressource, c'est-à-dire on se centre sur la ressource disponible et on repose la question de mais est-ce que la ressource que j'ai mobilisée, ce kilo ou ce litre de matière, est-ce qu'il est utilisé à bon escient ? Est-ce que son immobilisation n'est pas finalement une perte collective ? Comment je le remets dans un partage ? Comment je le préserve ? Comment je le transmets à d'autres ?
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on en fait trop en aval, pas assez en amont, on en fait trop du côté du recyclage ?
Non, c'est le modèle même de notre développement qui ne va pas. Ceux qui ont connu un mode d'agriculture que l'on dit paysan le comprendront. C'est-à-dire que ceux qui étaient sur des fermes isolées, tout circulait, tout était partagé, et à chaque fois on avait un morceau de pierre, et bien il était posé la question quel est le meilleur usage de ce morceau de pierre ? Faire un mur ou combler un trou de chemin ? Aujourd'hui, on a une telle facilité d'accès aux ressources que on ne la respecte pas. Je dirais l'économie circulaire, c'est le respect de la ressource, de ce que la nature nous donne, et comment on la réutilise, comment on en crée de la richesse.
Et c'est un concept qui va commencer à toucher le grand public à la fin des années 2000. Franck Adjeri, dans quel contexte est-ce que ce concept se popularise ?
Alors c'est une question que l'on s'est posée parce que même en discutant avec les experts, on a vu par exemple des échanges avec un expert de l'ADEME, Alain Geldron, qui avait écrit le rapport sur l'économie circulaire en 2010. Et donc c'est à cette époque que la notion émergeait. Et en discutant avec lui, il nous disait, au sein de l'ADEME, parmi les experts, la plupart pensaient que c'était un effet de mode. On dit, voilà, encore un nouveau concept, dans 3 ans on n'en parlera plus, ce sera autre chose. Et en fait, on observe malgré tout qu'il y a eu effectivement une mobilisation collective très forte, une sorte de cristallisation. Moi j'avais par exemple les premières assises de l'économie circulaire, j'étais frappé par le nombre de participants. Il y a quand même 2000 personnes, c'était très très impressionnant.
C'est lié au fait qu'à l'époque, on est à la fin des années 2000, enfin au cours de la décennie 2000, les matières premières, les prix des matières premières vont quadrupler à ce moment-là.
C'est ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une conjonction historique qui est à la fin des années 2000, il y a à la fois la crise environnementale qui était là depuis un moment, mais il y a effectivement un phénomène supplémentaire qui est un problème d'accès aux ressources, et notamment il y avait eu le prix des matières premières s'était envolé, donc du coup elles étaient devenues chères et on s'est posé la question de leur réutilisation. Et puis par ailleurs, il y avait un embargo chinois sur les terres rares, je ne sais pas si vous vous rappelez. Or, les terres rares, on les retrouve dans tous les produits de haute technologie. Donc il y a aussi une...
La Chine qui produit aujourd'hui 80%, 90% de terres rares.
95. C'est-à-dire que des terres rares, on en trouve un peu partout, mais le problème, c'est que l'impact environnemental est tel que la plupart des pays n'exploitent pas ces terres rares. Donc seuls les Chinois les exploitent, avec des conséquences écologiques catastrophiques, mais du coup ils ont un quasi-monopole, et donc c'est un vrai problème. Il y a des problèmes de sécurité d'approvisionnement.
Et c'est un moment où on s'est rendu compte de la dépendance de nos nouvelles technologies
à ces terres rares. On s'est dit, et pourquoi on ne va pas récupérer ces terres rares dans les produits existants ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de les récupérer, de les recycler, etc.
Mais il faut attendre 2015 pour que l'économie circulaire obtienne une reconnaissance législative en France, François-Michel Lambert, avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
On dira ça. Je voudrais juste quand même rappeler que l'économie circulaire, ce n'est pas l'économie des déchets. C'est vraiment celle qui est centrée sur la ressource. Et effectivement, dans la loi de 2015, est affirmé clairement dans le titre 4 de cette loi de transition énergétique pour une croissance verte, tout un chapitre sur l'économie circulaire avec une définition, avec différents éléments. Mais député, j'ai dès 2013 apporté la notion d'économie circulaire dans l'hémicycle et qui a été pris dans quelques lois précédentes de façon ponctuelle. Je en citerai une qui est la loi d'organisation des territoires où nous demandons à ce que chaque région se dote d'un schéma régional de gestion de déchets et d'économie circulaire. Donc, qui déjà renvoyait à chaque collectivité territoriale qu'elle se pose la question des ressources dont elle dispose dans son territoire, que ce soit des déchets ou des ressources naturelles, et comment elle les exploite. Ça a été structuré, vous avez bien fait de le rappeler, dans la loi TECV de 2015, où, outre la définition, il y a un amendement très clair qui n'est pas mis en œuvre, c'est que la France doit se doter d'un indicateur qui définit la croissance économique d'un côté, rapporté à la consommation de ressources de l'autre, pour faire la démonstration que nous continuons à être dans une croissance économique, mais que nous maîtrisons le besoin ressources, voire que nous utilisons moins de ressources pour notre croissance économique.
Aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur pour mesurer l'efficacité de l'économie circulaire telle qu'elle est mise en place par un pays, par une entreprise.
Il y a des indicateurs, notamment avec moins de ressources, je crée plus de richesses. C'est ce type d'indicateur. Mais dans la loi TECV, il y avait demandé à l'État de se doter de cet indicateur. Malheureusement, 4 ans plus tard, nous n'avons toujours pas cet indicateur, donc nous ne savons pas si la France crée de la richesse en consommant toujours plus de ressources ou si elle crée de la richesse en commençant à être plus vertueuse sur les ressources mobilisées. Et c'est primordial parce qu'un jour, nous n'aurons plus accès à certaines ressources et ça, l'effondrement peut aller très vite. Il y a eu quelques peurs, vous l'avez rappelé, lors des blocus, lors de l'augmentation du prix de certaines matières, quelques peurs d'industriels.
Et alors on va voir que la loi qui est actuellement, qui va être en discussion autour de l'économie circulaire, tente d'aller justement plus loin. On va en voir peut-être les limites et les avantages dans quelques instants. Mais d'abord, venons-en à ce que propose concrètement l'économie circulaire. circulaire. L'un de ses piliers, c'est la symbiose industrielle. Et c'est la ville portuaire de Kalundborg au Danemark qui nous en offre le meilleur exemple.
Normalement, ça ne se faisait pas de communiquer entre entreprises sur la gestion des déchets industriels. On les cachait. Mais on s'est assis à une table et on s'est dit, regardons ce qui est perdu et ce qui peut être de nouveau utilisé. Ce n'était pas si innovant que ça, c'était juste du bon sens. Toutes les personnes qui travaillaient dans ces entreprises se sentaient mieux. On n'était plus considérés comme des pollueurs. On était actifs, dynamiques. Ça a créé une bonne atmosphère.
L'ancien directeur de la centrale électrique de Kalundborg, Valdemar Christensen, qui était interviewé dans l'émission Global Mag sur Arte il y a 2 ans. Kalundborg est aujourd'hui considéré comme une ville pionnière de la symbiose industrielle, François-Michel Lambert.
Oui, la Mecque de ce qu'on appelle l'écologie industrielle, la symbiose industrielle. C'est assez remarquable, j'ai eu la chance d'y aller. Il y a des tuyaux sur plusieurs hauteurs, dans tous les sens. Petite zone, hein, c'est pas, mais très compact, très organisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont scanné tous les flux entrants et sortants de chaque acteur et essayé de les répartir entre eux. Et si personne ne pouvait utiliser un flux sortant de l'un, eh bien, ça devenait une opportunité d'attractivité pour un nouvel industriel.
Par exemple, récupérer les eaux usées d'une usine.
Oui, il y avait encore plus fort, c'est les fumées de la cheminée de la centrale à charbon qui vient alimenter la production de gypse et donc de placoplâtre de l'usine de Saint-Gobain. Donc on voit bien que jusqu'où l'on va, on récupère certains flux que l'on pourrait croire complètement perdus et tout au contraire, on y accole une industrie. Qu'est-ce qui se passe? Comme dans la nature, vous savez, hein, la nature, si vous avez un chêne qui est planté dans une terre qui n'échange pas et qui est quasiment morte, le chêne, ses racines ne le feront pas tenir, il tombera. S'il y a des échanges entre toutes les éco-organismes, les organismes écologiques de cet espace, ben le chêne tiendra. Et bien c'est ce qui se passe. Des entreprises puissantes ont pu survivre très loin de Copenhague, hein, on n'est pas juste à côté, très loin de tout, parce que justement autour d'elles, elles ont créé un écosystème puissant économiquement.
Et alors quel bilan est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, Franck Algéry, de cette expérience d'écologie industrielle à Kalundborg?
Alors c'est une expérience effectivement qui est très intéressante, parce qu'elle est je dirais, assez orthogonale avec la logique économique classique, disons, dans une optique de mondialisation. Puisque là, on voit qu'on relocalise, en fait, il y a d'abord un travail coopératif entre différentes entreprises. L'écosystème n'émerge pas spontanément, naturellement, mais il est conçu par des acteurs qui vont travailler sur les flux. Donc, il y a une action volontaire. Donc, il y a des formes de planification. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de démarche, où est-ce qu'on trouve des expériences un peu similaires, c'est notamment en Chine. Alors, j'insiste là-dessus. C'est que, en matière écologique, la planification est quelque chose qui n'est pas... alors, qui peut être interactive, hein, qui n'est pas nécessairement la planification par l'État central. Mais je veux dire, des formes de coopération et de planification à moyen et long terme ont un sens véritable.
La Chine le fait pour des raisons environnementales autant qu'économiques?
Oui, pour les deux. Oui, parce qu'ils sont très préoccupés, de même que les Japonais, qui sont très très en pointe sur les questions d'économie circulaire, par les ressources.
L'accès aux ressources.
Absolument. C'est une obsession chez eux, parce qu'ils ont une industrie très puissante et ils voient bien qu'en fait les réserves sont pas inépuisables. Donc ils se posent des questions. Effectivement, ils sont assez en pointe sur ce, beaucoup plus que les États-Unis, par exemple.
Et en l'occurrence, à Kalundborg, ça a permis de réduire la consommation en ressources, de réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre.
Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais oui.
Oui, et je voudrais que, et en même temps, de créer de la richesse pérenne, durable, donne de l'emploi dans une ville qui est à 3 heures de Copenhague, au milieu de nulle part, 50 000 habitants, et qui est extrêmement puissante. Un port qui n'est pas plus attractif que ceci, eh bien, c'est par cette intelligence d'écosystème de partage. En France, nous, l'Institut National de l'Économie Circulaire, nous déployons une approche à peu près similaire, qui s'appelle la synergie interindustrielle, dans plusieurs dizaines de territoires français.
La ville de Dunkerque, notamment,
à
la mise en place.
Mais où le port de Marseille, de Toulon, il y en a des dizaines, je vais en oublier évidemment, qui commencent à partager de l'information. Et j'ai plaisir à dire souvent que le plus important dans une démarche d'économie circulaire, c'est la machine à café. Je m'explique. La machine à café, c'est ce lieu où parlent ceux qui n'étaient pas appelés à se rencontrer, où ils échangent de leurs difficultés. Et à Kalenborg, le seul engagement de la collectivité, ça a été de créer un espace de 300 mètres carrés où tout le monde vient, regarde ce qui se fait, on échange, et ceux de l'industrie A rencontrent ceux de l'industrie B.
Ce sont avant tout les acteurs économiques qui ont pris en main...
Se structure, c'est ce que nous proposons avec le PNSI, ce programme national, ça se structure, mais il est absolument nécessaire de sortir d'une société que nous avons connue à la fin du XXe, où tout le monde était en silo et ça fonctionnerait très bien, et de passer plutôt à une société de partage et de rencontre de la différence des autres. Et ça, c'est un élément clé d'une démarche d'économie circulaire. Donc ça veut dire quoi? Et je finirai là-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une question technique, l'économie circulaire, c'est aussi une question de quel est le modèle de société, quelle est la façon de vivre ensemble, de communauté que nous pouvons réaliser pour justement répondre aux défis de la rareté des ressources.
Franck Agéry.
Oui, il y a, dans l'expérience de Kalenborg, il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. C'est premièrement, c'est le résultat d'une action collective. Et c'est un aspect absolument central dans l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il faut restaurer des actions collectives fortes. Or, malgré tout, dans le modèle économique dominant, on fait l'hypothèse que chaque acteur individuellement va trouver des solutions.
Or, avec l'idée que la mise en concurrence est essentielle.
Exactement. Or, on a besoin en fait d'écosystèmes puissants qui accroissent la résilience des entreprises. Hein, je pense que ce point effectivement est très juste. C'est si vous avez créé sur un échelon territorial des entreprises qui sont en synergie les unes avec les autres, leur résilience économique s'accroît. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, du coup, on développe un système où les ressources sont locales. Or, dans l'économie mondialisée, on va chercher les ressources à des milliers de kilomètres avec des tas d'intermédiaires et il n'y a pas de traçabilité. On a du mal d'ailleurs à reconstituer les flux de matière et d'énergie parce qu'il y a tellement d'intermédiaires que c'est très compliqué.
On parlait tout à l'heure de l'extraction des métaux rares par la Chine et de la pollution que cela implique. Et le problème, c'est que les besoins en métaux ne cessent d'augmenter dans le monde et pourtant leur extraction donc, mais aussi leur recyclage posent des problèmes qui sont à la fois écologiques, économiques et techniques aujourd'hui, Franck Agéry.
Oui, alors ça c'est un point qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a cette problématique des métaux stratégiques, des terres rares qui est apparue sur l'agenda depuis une dizaine d'années. Donc c'est effectivement l'embargo chinois qui a été l'élément déclencheur. Mais d'où vient le problème? C'est qu'en fait les produits que nous achetons aujourd'hui ne sont pas les produits d'hier, de même que les produits de demain ne sont pas les produits d'aujourd'hui. Or, la composition en termes de matière a complètement changé. Et donc, on utilise désormais tous les éléments de la table de Mendeleïev, et donc on utilise effectivement des métaux en quantité croissante dans toutes les hautes technologies.
Et on ne pourra par exemple recycler que 95% d'un téléphone portable, et c'est peut-être dans les 5% restants qu'il y aura précisément des ressources qui risquent de manquer à l'avenir.
Alors, le problème du recyclage, on connaît bien dans le cadre de la chaire là, dont je suis co-responsable, il y a également Chimie Paritech qui est partie prenante. Le problème du recyclage des métaux stratégiques, c'est un problème de concentration, c'est-à-dire qu'elles sont en toute petite quantité et donc ces métaux sont perdus dans les processus de recyclage actuels. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez dans un téléphone, ce qui a beaucoup de valeur sont les cartes électroniques et ce qu'on récupère, ce sont les métaux précieux. Donc c'est l'or, etc. Mais on perd les métaux stratégiques dans le processus. Donc il y a un enjeu à développer des procédés pour concentrer les flux et développer des techniques permettant de récupérer ces métaux et les recycler.
Ces métaux rares qui, par ailleurs, donc on l'a dit, sont très polluants au moment de l'extraction et pourtant servent à des technologies vertes comme les panneaux solaires, François-Michel Lambert. Donc il y a un paradoxe un peu qu'il va falloir peut-être réussir à dépasser.
La question est très bien posée. La réponse est que ce n'est pas dans le recyclage que nous tiendrons dans le temps. C'est juste pour une décennie, deux décennies. C'est complètement changer nos modèles.
C'est le temps de la transition.
Recycler le passé ne vous donnera pas le volume de vos besoins d'aujourd'hui. Pour deux raisons, la croissance démographique et, comme ça a été dit, les changements de besoins, la croissance des besoins. Donc, si on recyclait tout le cuivre des Romains, vous imaginez bien que ça ne servirait même pas un quartier de Paris en termes de besoins en câblage X ou Y. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous devons trouver d'autres modèles, ceux où on fait durer les produits et surtout on crée beaucoup plus de richesses par le partage, par l'intensification de l'usage de ces produits, des ressources. C'est un changement complet de paradigme dans lequel nous devons nous installer, c'est-à-dire ne pas être dans l'idée de toute façon ça sera recyclé. Je vais faire un exemple. Une voiture qui se recycle à 95% et qui aura fait 10 000 km en 10 ans avec une personne à bord est beaucoup moins performante finalement sur cet enjeu des ressources qu'une voiture qui se recyclera moins mais qui aura fait 100 000 km, 200 000, 1 million de kilomètres avec 4 personnes à bord parce que celle-ci aura rendu beaucoup plus de services humains en déplaçant beaucoup plus de personnes sur beaucoup plus de distance.
Mais l'un n'empêche pas l'autre, les deux peuvent être menés en parallèle.
Oui, mais le risque, c'est que c'est la facilité, c'est que je vous vends une voiture en vous disant elle va être recyclée à 98,8 ou 9%, mais si de cette voiture vous la laissez stationner, que vous n'en faites rien et que vous êtes tout seul à bord, vous bloquez une tonne de matière, en vérité 7, parce qu'il a fallu 7 tonnes pour le fabriquer, alors que si vous avez une voiture qui est un peu moins bien recyclée, mais qu'elle est partagée, que vous mettez 4 personnes à bord, que vous roulez beaucoup plus du matin au soir, etc., ça supprimera le besoin d'autres voitures inutiles.
Donc, il faut travailler sur les usages et le recyclage en même temps.
Et changer notre modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, leur modèle économique, c'est de vendre du produit, que ce produit soit détruit. Et c'est pas être dans l'économie de la fonctionnalité, l'économie d'usage. On en reparle.
Et alors, sur cette question, donc à la fois de l'usage, mais aussi du recyclage, la France a peut-être encore un certain nombre d'efforts à faire. Franck Algéry, je pense en particulier au plastique, au recyclage du plastique. La France, aujourd'hui, est plutôt en retard par rapport à ses voisins européens. Sur ce point,
je suis passé en retard, j'en suis pas sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, sur les statistiques de collègues de recyclage, on s'est rendu compte au niveau européen que les méthodes n'étaient pas homogènes. Et par exemple, les Allemands affichent des taux de valorisation très élevés et considèrent l'exportation comme de la valorisation. Or, on ne sait absolument pas ce que deviennent les déchets qui sont envoyés, qui étaient envoyés en Chine ou en Afrique.
On sait qu'aujourd'hui, la Malaisie vient d'annoncer qu'elle refusait désormais d'accueillir les déchets plastiques, comme la Chine l'a fait il y a quelques années.
Alors que les Français, il y a eu des études internationales qui montrent que la traçabilité est bien meilleure, est excellente. Donc, on affiche peut-être des taux sur le papier qui sont plus faibles, mais par contre, on sait, on est capable d'assurer la traçabilité. Donc ça, je crois qu'au contraire, c'est plutôt un point fort de la France. Alors cela dit, il y a beaucoup effectivement d'efforts à faire pour augmenter le recyclage des plastiques, notamment. C'est un énorme problème. On n'arrivera pas à 100%. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des chiffres comme ça qui sont sortis.
100% d'ici à 2025, voilà, ça paraît très difficile.
Oui, non seulement c'est difficile, mais en fait, ça n'a pas de sens. Alors je prends un exemple très concret. Alors ça renvoie à l'hygiène dont je parlais tout à l'heure, mais il y a eu des controverses, vous savez, sur les plastiques bromés qu'on trouve notamment dans un certain nombre de produits, notamment électroniques. Et en fait, on introduit on charge les plastiques en brome parce que ça évite l'inflammation des produits. Donc, il y a des fonctions pour lesquelles il y a du brome. Donc, il faut chercher des substituts. Mais ces plastiques bromés, on peut pas les recycler parce que ça pose des problèmes pour la santé.
Donc, on va jouer sur la production en amont pour que seuls des plastiques recyclables soient produits.
Il y a cette dimension. Mais sinon, je rejoins effectivement ce que disait François-Michel Lambert, c'est qu'il ne faudrait surtout pas dire que l'économie circulaire, c'est le recyclage. Parce que, effectivement, ce n'est qu'une composante. Et puis, par ailleurs, si on veut changer de modèle économique et aller vers une transition écologique ambitieuse, il faut agir en amont. C'est-à-dire qu'il faut effectivement dématérialiser, c'est-à-dire réduire la consommation de ressources, il faut rallonger la durée de vie, etc. Et partager. C'est là-dessus, réparer,
partager.
Et donc, de ce point de vue-là, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais là, il y a effectivement beaucoup d'efforts à réaliser de ce côté-là.
On va poser la question, effectivement, de l'impact de l'économie circulaire sur la croissance. Est-ce qu'elle peut être un levier de croissance? On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Dark
écoutez Garbage du groupe Chairlift sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sur l'économie circulaire dans la lutte contre la raréfaction des ressources. Nous sommes toujours en compagnie du député écologiste François-Michel Lambert et du chercheur Franck Agéry. Alors l'économie circulaire, peut-elle être un levier de croissance? C'est en tout cas l'une de ses promesses. En tout cas, ce que l'histoire nous apprend, Franck Agéry, c'est que la raréfaction des ressources peut permettre de développer de nouvelles opportunités économiques. Ça a été le cas, par exemple, en Angleterre, la production de charbon s'est développée parce que le bois devenait rare.
Alors ça, c'est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, la rareté peut être un facteur d'innovation, de croissance, parce qu'elle oblige à trouver des solutions complètement nouvelles. Alors aujourd'hui, l'enjeu, effectivement, c'est plutôt de développer de nouveaux modèles économiques qui sont pas autour de la fabrication et la commercialisation de produits utilisant massivement des ressources, mais c'est plutôt autour du développement, on va dire, des services. C'est-à-dire, il faut aller vers la dématérialisation. Alors ça peut être par exemple la réparation, le réemploi, la vente de, etc. Enfin, il y a différentes stratégies. Et de ce point de vue-là, il y a aussi des mesures publiques qui visent à encourager ces démarches. Et donc, il y a des entreprises qui essaient d'explorer ces nouveaux modèles économiques. Et donc là, il y a un potentiel de croissance très important parce que ce sont des emplois qui sont territoriaux. Et c'est de la croissance donc qui est plus localisée.
Alors justement, voyons un exemple concret. Voyons comment l'économie circulaire permet aussi de créer de l'emploi.
En se spécialisant, on a réussi à progresser, à intégrer l'ensemble de la valeur ajoutée de notre segment et à devenir les plus performants en termes de retraitement, quoi. Et donc en faisant ça, on a pu industrialiser, on a pu chercher à aller toujours de l'avant et à prendre les parts de marché, quoi. On pense qu'on doit conserver notre compétitivité parce qu'on est une industrie française, mais pour autant, dès l'instant où on gagne, on se dit on restitue. Et si je prends l'année dernière, c'était à peu près 3 mois de salaire restitué. Cette année, on devrait être aux mêmes alentours, il me semble. Et on est fiers de ça.
Voilà Mathieu Millet, le fondateur de Remade, le leader français de la reconstruction de smartphones, une entreprise qui est installée en Normandie et qui emploie aujourd'hui 850 salariés. L'économie circulaire peut être une véritable aubaine pour les territoires, selon vous, François-Michel Lambert?
J'ai visité Remade, c'est extraordinaire. Dans un lieu qui n'est pas autour d'une métropole, 800 emplois, à déconstruire proprement des smartphones. Et à les reconstruire depuis la plus petite vis jusqu'à l'écran et quasiment équivalent du neuf. Donc on voit bien que ce n'est pas du recyclage, c'est de la capacité à reprendre le produit et à continuer à aller de l'avant. Ce qui est du bon sens paysan, hein. Je crois que aujourd'hui, notamment dans le monde de l'agricole, on continue à travailler avec des machines qui ont 30, 40, 50 ans, mais qui ont été, on appelle ça remanufacturées, c'est-à-dire qu'elles ont été démontées, mises à jour et reparties. Mmh. Dans la consommation plutôt métropolitaine, on est plutôt, il faut changer tous les 2 ans sa voiture, il faut changer tous les 5 ans sa machine à laver. Ce sont 2 concepts sur lesquels nous devons justement repousser l'un, celui de la rotation trop rapide de certains produits manufacturés et au contraire rentrer dans d'autres modèles.
Mais comment expliquer le succès de Remade justement, et est-ce que c'est un succès qui pourra être reconduit?
Alors le succès de Remade, c'est parce que il travaille sur des produits à forte valeur ajoutée, sur certains types de smartphones où il peut revenir sur le marché avec l'équivalent du neuf, garanti comme le neuf, sauf qu'il a été déconstruit, reconstruit, il a même changé de couleur. Mais si vous voulez que ça fonctionne, et je voudrais en tant que législateur rappeler, et c'est pour ça que je suis un peu critique sur l'ambition de la loi économie circulaire, eh bien il faut qu'on change aussi le modèle dans lequel on est inscrit. Si aujourd'hui vous avez un modèle où la fiscalité favorise la destruction plutôt que le partage, la reconstruction, l'allongement d'usage. Si vous avez une réglementation qui autorise toute destruction sans s'assurer qu'on est dans la transmission, si vous avez des politiques d'achat public et qui vont toujours chercher le -10 ans au lieu d'essayer de soutenir la production positive, si vous avez une culture télévisée, une culture de société de consommation où si t'as pas pas le dernier iPhone, eh ben t'es has-been, eh bien on s'en sortira pas.
Donc, il y a d'autres pays qui s'en sortent mieux tout de même, François-Michel Lambert, et d'ailleurs on peut en parler. Vous en parliez tout à l'heure, Franck Algérie du Japon, qui est un pays qui a particulièrement investi dans l'économie circulaire. Alors c'est un pays qui est touché par les problématiques de rareté des ressources, peut-être plus qu'un autre, et c'est vraiment un État qui a pris le problème à bras-le-corps.
Alors oui, alors notamment ils ont une politique, disons, vous savez, au Japon, historiquement, il y a le MITI, hein, qui était ce grand ministère qui fait de la prospective, de la planification industrielle, qui soutient les entreprises. Et donc ils ont cette culture de se projeter à moyen et à long terme, c'est-à-dire au-delà de l'horizon des critères financiers. Vous savez, si on applique des critères de rentabilité avec le taux d'actualisation, au-delà de 10 ans, ça ne compte plus. C'est écrasé par le mécanisme de l'actualisation. Donc les Japonais avaient cette capacité à essayer d'anticiper des problèmes et de se mettre en mouvement collectivement pour essayer d'y répondre.
Et ça a bien marché.
Et donc là, ils ont effectivement des stratégies avec des feuilles de route, etc., extrêmement précises pour essayer de, notamment, avoir des stratégies pour réduire la dépendance vis-à-vis des ressources, pour recycler, pour collecter, pour faire des tas de choses.
Aujourd'hui, ils sont à un taux de recyclage du bois de presque 100% pour les emballages et de 95% pour le béton et le bois de construction. On en est loin, nous, de ces beaux résultats.
Ah oui, complètement. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'accompagnement, de mesures publiques pour inciter et faire en sorte que des pionniers se lancent dans ces démarches. Je voulais réagir sur Remade parce que j'avais effectivement, j'ai également rencontré des personnes de cette entreprise. J'avais écrit un article sur le sujet. C'est un cas qui est fascinant, notamment le point clé, parce que c'est qu'ils ont, il y a eu un vrai travail d'innovation sur l'ingénierie de la déconstruction des téléphones. Donc là, il y a un champ qui est très intéressant. C'est pas simplement concevoir des produits neufs, mais c'est concevoir des processus de déconstruction, de reconditionnement. Et là, il y a un gros enjeu. Il y a sûrement des formations, d'ailleurs, à développer en France et ailleurs pour exploiter ce type de savoir-faire.
Il devrait y avoir des concurrents de Remade qui devraient apparaître.
Justement, on avait discuté avec Remade de ce point et il en ressort que, en fait, pourquoi le cas des smartphones est particulièrement adapté, c'est qu'il y a une valeur résiduelle très forte. C'est que le smartphone est tellement cher et donc la marge que fait Apple est tellement élevée qu'effectivement, il y a de la place pour faire de la déconstruction et de la reconstruction de façon extrêmement industrielle et propre et d'être capable de remettre sur le marché des produits à un coût acceptable. Mais effectivement, la question, c'est les concurrents. Pour le moment, sont les seuls au monde qui sont capables d'offrir des produits de cette qualité-là.
Il y a quand même une question sur Remade. Bon, d'abord, il y a effectivement cette capacité, mais aussi ce que l'on voit un peu moins, c'est l'organisation du système qui capte des smartphones de premier usage pour les faire venir en Normandie où ils seront déconstruits, qui après les redistribuent. Donc, on voit aussi qu'il y a des systèmes organisationnels complexes à mettre en œuvre et ils se heurtent. Je dirais, moi, en tant que législateur, je le rappelle, ils se heurtent quand même à des difficultés. C'est-à-dire qu'ils font cette activité, cette réussite, avec les mêmes règles d'un modèle qui est au contraire un modèle d'hyperconsommation et de destruction. C'est-à-dire des règles fiscales, des règles comptables, des règles diverses et variées qui doivent changer.
Et pourtant, ça marche. Plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière.
Ça marche parce qu'il y a une marge extrêmement importante. Mais si nous avions par exemple une fiscalité très faible sur la main-d'œuvre de réparation en France, si nous avions des politiques volontaristes de l'État d'acheter des produits reconditionnés, si nous mettions plus de réglementation pour éviter la surconsommation, le gaspillage des uns, eh bien, vous verriez que autre chose que les smartphones, ça sera peut-être bientôt la machine à café, qui pourra être récupérée, reconditionnée et revendue. Et c'est ça qui est primordial et qui manque aujourd'hui dans la vision globale, c'est que nous ne pourrons pas passer d'un monde qui au 10 mai, une Europe qui au 10 mai a atteint son jour du dépassement à une Europe qui finalement respectera les ressources, si entre-temps nous n'avons pas changé le cadre dans lequel notre société se développe.
On va tout de même discuter
et réglementaire.
Tout de même discuter des mesures, François-Michel Lambert, de cette loi sur l'économie circulaire qui va être présentée en Conseil des ministres le 3 juillet prochain. Le texte prévoit tout d'abord d'étendre la responsabilité élargie des producteurs, la REP. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, Franck Algéry, de quoi il s'agit ?
Alors effectivement, on parle de REP. Alors c'est une démarche qui est assez ancienne, mais qui s'est développée à partir des années 90. Et l'idée, en gros, c'est d'appliquer, d'étendre le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire faire porter la charge des impacts environnementaux sur les producteurs pendant le cycle de vie.
De façon collective et non pas individuelle comme c'était le cas au départ.
Alors au départ, il n'y avait pas de charge, c'est-à-dire que c'était justement une externalité, c'est-à-dire personne ne payait pour ça sauf la collectivité. Donc la première étape, effectivement, ça a été de dire il faut rendre les producteurs responsables. Mais il y a deux voies possibles, c'est soit une voie individuelle, c'est-à-dire chaque producteur, par exemple, va récupérer ses déchets ou ses produits et va essayer de les recycler, soit il y a une voie collective où on va chercher à mutualiser les démarches. Et en fait, il y avait un rapport de l'OCDE sur la REP qui date de 99 qui laissait ces deux possibilités ouvertes. Et ce qu'on observe, c'est que dans la plupart des pays européens, notamment en France, c'est plutôt des solutions de responsabilité collective qui ont été mises en place.
Parce que c'est ce qui marche le mieux.
Disons qu'il y a une mutualisation, notamment sur la partie déchets, une mutualisation des actions pour collecter, pour recycler. C'est évidemment beaucoup plus intéressant d'avoir une démarche collective. Et donc, on a créé notamment des éco-organismes, qui sont des sociétés de droit privé, mais avec une mission de service public, dont les actionnaires sont des producteurs ou des metteurs en marché, donc ça peut être également des distributeurs, et qui, en négociation avec l'État, essaient de conduire un certain nombre de politiques, à la fois vis-à-vis des producteurs et des consommateurs. Et ce que j'observe, notamment dans le projet de loi sur l'économie circulaire, là.
Qui prévoit justement de nouvelles filières.
Voilà, c'est que la REP est un peu l'instrument central qui va servir à déployer la démarche.
Et alors justement, est-ce que ça, c'est pas une avancée, François-Michel Lambert, le fait que de nouvelles filières REP vont être créées, le fait que le BTP sera peut-être inclus dans ce projet de loi, est-ce que ça ne constitue pas une avancée ?
Oui et non. Oui et non, je m'explique. Hein, si c'est déconstruire et mieux recycler les déchets du bâtiment, mais d'un bâtiment qui aura pendant 20 ou 30 ans servi à rien, qui aura été vide, eh bien c'est de la ressource que nous aurons immobilisée, pris à la planète, que nous aurons posée là dans un coin, sur lequel nous n'aurons pas créé de richesse. Donc,
il manque le volet éco-conception dans cette loi, selon vous ?
Non, la capacité à mieux se poser la question des ressources que nous mobilisons. Par exemple, nous faisons des études où nous démontrons que des universités, c'est 25% du temps disponible, où elles sont réellement utilisées. Mais une université, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est quelque chose qu'on a arraché à la nature et qui est composé de bois, de métal, d'éléments assez rares qui est le sable et le granulat. Ça devient de plus en plus rare, le sable et le granulat. Donc est-ce qu'il n'est pas nécessaire de se poser des nouveaux modèles de développement où il y a le temps de l'enseignement à l'université et puis ce même bâtiment peut servir à autre chose. Et ça évite de construire un deuxième bâtiment pour ce nouveau service.
Il y a tout de même des mesures qui sont particulièrement intéressantes. J'en cite une, par exemple, les producteurs pourraient être contraints, et le terme contraint est évidemment central ici, à intégrer davantage de matières recyclées dans leurs produits. Oui. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important pour la compétitivité de ce qu'on appelle la matière première secondaire, Franck Algéry.
Alors effectivement, je trouve qu'il y a tout n'est pas parfait dans le projet, mais il y a des avancées. Alors effectivement, il y a des avancées. D'abord, effectivement, sur le recyclage, on voit bien que sur la partie notamment recyclage des plastiques, on est vraiment à un niveau très très bas en France comme ailleurs, et donc il y a un enjeu à amorcer la pompe. Donc en créant des incitations et effectivement la mesure dont vous parliez en fait partie. L'autre point, c'est de solidifier des filières industrielles. C'est-à-dire que ce qui manque un peu dans la feuille de route, c'est que en fait l'économie circulaire, ça c'était un point que j'avais développé dans différents articles, aurait pu être l'occasion de relancer de nouvelles formes de politiques industrielles territorialisées. parce que en fait, c'est pas de la génération spontanée. Voyez pas, il suffit pas de créer quelques incitations et puis un système industriel se développe.
Il n'y a pas eu assez de volonté politique sur ce point.
Bah, disons que c'est quelque chose qui devrait être développé. C'est essayer d'avoir une politique plus volontariste pour reconstruire ou construire ex nihilo de nouvelles filières qui peuvent être déstabilisées parce que on insiste rarement là-dessus. C'est-à-dire, on prend le recyclage, il y a des filières. Le problème, c'est que lorsque le prix, par exemple, souvent le prix du recyclé est indexé sur le prix de la matière vierge. Quand le prix de la matière vierge tombe, si vous voulez, souvent l'industriel rebascule vers la matière vierge et abandonne la matière recyclée. Le recycleur fait faillite et à ce moment-là, c'est très difficile de relancer la filière. Donc il y a des mécanismes de stabilisation à inventer. Donc ça, c'est pour le recyclage. Mais par ailleurs, dans le projet de loi, il y a beaucoup de choses qui concernent la prévention. Donc effectivement, l'éco-conception, l'éco-modulation, c'est-à-dire on va essayer de récompenser ou d'inciter les producteurs à, disons, éco-concevoir leurs produits. Ils paieront des éco-contributions qui seront plus faibles.
Mais peut-être le problème, c'est cela, c'est que c'est beaucoup d'incitations, mais qu'il manque que des contraintes dans cette feuille de route.
Il faut toujours une combinaison des deux. Hein. Enfin, on peut pas être uniquement dans la contrainte ou l'incitation. On a besoin certainement de contraintes, on a besoin d'incitations, et on a besoin aussi d'actions collectives qui peuvent être suscitées par les pouvoirs publics également. Et donc, par exemple, une des avancées, je trouve intéressante, c'est la réparabilité. Puis il y a tout un travail sur les indices de réparabilité, notamment pour informer le consommateur. Et ça, c'est absolument fondamental parce qu'aujourd'hui, c'est un point qui est très peu travaillé.
Il y a l'indice de réparabilité peut être une idée. François-Michel Lambert, il y a aussi la consigne qui serait créée en France, ce qui est beaucoup fait en Allemagne et qui jusqu'ici n'existait pas en France.
Oui, la consigne, il faut se poser les questions. Alors, quel type de consigne? Consigne produit ou consigne matière? Mais je voudrais, vous pouvez avoir un indice de la réparabilité. Si ça vous coûte cher, vous ne réparez pas. Et donc, c'est là où je dis que le gouvernement ne va pas assez loin. Nous travaillons à notamment faire baisser le coût de la réparabilité par la fiscalité qui est encore élevée dessus, le taux de TVA élevé notamment, par l'absence d'aide. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je vais finir sur un exemple. Le chemin dans lequel nous devons aller, Michelin l'a démontré. Michelin, avant, vendait des pneumatiques de camions qui tenaient à peine 300 000 km. Et dès que vous touchiez un trottoir, ils explosaient, ils étaient contents. Ils vendaient beaucoup, beaucoup de pneus. Aujourd'hui, ils vendent du kilomètre d'usage du pneu pour les camions. Et ils ont complètement repensé. Ils utilisent des pneus qui peuvent tenir 1 million de kilomètres, qui sont rechappés deux fois.
Donc les entreprises commencent à s'adapter.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que un même service rendu, c'est trois fois moins de matière, puisque le pneu dure trois fois plus longtemps, c'est trois fois moins de matière prélevée à la nature. Tant que nous ne reviendrons pas aux fondamentaux de « mais qu'est-ce que nous prélevons ?» et quand nous serons 11 milliards, qu'est-ce que nous prélèverons à la nature? Qu'est-ce qu'elle pourra nous donner? Puisqu'à un moment, elle pourra plus nous donner. La planète est finie. Eh bien, le modèle de Michelin est celui dans lequel nous devons aller, c'est-à-dire repenser même la façon de consommer, la façon de vendre les produits, aller dans une économie de partage, une économie de la fonctionnalité.
Franck Agéry, je vous laisserai le mot de la fin. On arrive presque au terme de cette émission.
Oui, sur cette question de réparabilité, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont motivées pour travailler qui sont motivées pour changer de business model. Alors, je prends un exemple très simple. On a travaillé un petit peu avec Seb, qui est un fabricant français qui fabrique beaucoup en France. Et donc, ils ont un problème de compétitivité prix, évidemment, par rapport aux fabricants chinois. Et pour eux, la réparabilité, ça peut être un élément de différenciation. Parce qu'ils ont des usines en France, ils peuvent proposer des services avec des produits avec une durée de vie plus longue, etc. Et donc, s'il y a effectivement des accompagnements, c'est des actions qui peuvent développer. Même chose, d'ailleurs, pour les distributeurs, hein, qui peuvent, dans leur offre commercial, proposer des services de réparation comme Darty ou d'autres.
Et donc là, l'économie circulaire serait un espoir pour l'industrie française.
Et, tout à fait.
L'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'une initiative visant à combattre les pollutions liées aux déchets plastiques.
Mais oui, une trentaine d'industriels parmi les plus puissants de la planète se sont associés en janvier pour créer une alliance et combattre la contamination du monde par le plastique. Il faut dire que la Terre s'est retrouvée submergée, dévorée par des quantités indicibles de déchets. Plus de 6 milliards de tonnes de plastique produites en quelques dizaines d'années. L'ONU estime ainsi que si rien n'est fait, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan en 2050. Total, ExxonMobil, BASF ou encore Veolia, 30 industriels d'un bout à l'autre de la chaîne du plastique se sont donc rassemblés et ont promis d'investir 1,3 milliard d'euros pour développer des procédés de recyclage et de gestion des déchets. Une alliance pour les recycler tous, une alliance pour les trouver, tous les déchets plastiques et dans les poubelles les jeter.
Cette initiative prévoit également de financer des projets de nettoyage de zones polluées.
Absolument, toute une ribambelle de belles initiatives qui semblent irréprochables sur le papier. Difficile en effet de reprocher à ces entreprises de s'engager pour la propreté, pour les produits recyclés. Le problème, c'est que cette démarche se limite en réalité à réparer les problèmes que ces mêmes entreprises ont causés. À aucun moment, cette initiative ne s'intéresse à la prévention de toutes ces pollutions. À aucun moment, elle ne propose de limiter la production de plastique. Pour revenir, par exemple, nous en parlions au système de consigne abandonné dans les années 60 sous la pression de ces mêmes industries. Le philosophe Grégoire Chamaillou explique d'ailleurs dans un article du Monde Diplomatique comment l'empire américain de la boisson s'est démené dans les années 50 pour développer le jetable, éradiquer le réutilisable. Mais bien sûr, pas question de passer pour de vils pollueurs, les Coca-Cola et autres Budweiser ont donc eu l'idée géniale de lancer de grandes campagnes de publicité vantant les mérites du recyclage et faisant peser la charge de la faute sur le consommateur.
Et selon vous, cette alliance pour en finir avec les déchets plastiques, entre guillemets, procède de la même logique?
Absolument, il y a ainsi quelque chose de profondément irrationnel à fabriquer des produits à usage unique dans une matière faite pour durer éternellement. Quelque chose de plus absurde encore à faire passer le recyclage pour la panacée, car recycler consomme de l'énergie, de la matière et de l'argent. On peut donc saluer les efforts mis en œuvre pour éviter que les bouteilles et sacs plastiques finissent au fond de l'océan, mais il faut surtout se rendre compte que c'est une manière fort habile de détourner l'attention de leur rôle dans cette pollution.
Des associations telles que la Surfrider Foundation relèvent d'ailleurs que ce sont les mêmes entreprises qui se sont battues à Bruxelles pour éviter l'interdiction des produits à usage unique.
Oui, des associations qui déplorent surtout qu'à aucun moment le modèle de production dans son ensemble ne soit remis en cause. La directrice de Zero Waste France, Flore Berlingen, explique ainsi qu'en France, le secteur du recyclage est plus soutenu que l'effort en faveur de la prévention. Et c'est bien là tout le problème. Car il sera toujours plus écologique de boire dans un verre en verre que de se désaltérer dans une bouteille en plastique. Mais ce n'est, semble-t-il, pas la volonté des industriels qui, des pétrochimistes aux entreprises de gestion des déchets, ont tout intérêt à voir le plastique prospérer.
On se quitte avec le Garbage Man Blues de Phil Guy. Merci beaucoup François-Michel Lambert et Franck Agiri d'être venus dans nos studios aujourd'hui et de nous avoir éclairés sur les limites de l'économie circulaire. On se retrouve demain pour une table ronde d'actualité économique. On se demandera si les taux d'intérêt exceptionnellement bas sont une bonne nouvelle pour la croissance. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
Saw my baby making love to the garbage man. It looked good.